VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 4 avril 2016. Au sommaire ce soir,
tirs nourris ce lundi dans les quartiers sud de Brazzaville. Selon le gouvernement, les combats ont opposé les forces de l'ordre à d'ex-miliciens Ninja Nsilulu.
Au Tchad, la vague d'arrestation des leaders de la société civile se poursuit. Un autre porte-parole de la coalition Ça suffit a été emmené par la police aujourd'hui.
Nuit de violence au Burundi, 2 personnes tuées et 4 blessées hier soir dans le sud-ouest du pays. Dans le centre, une grenade a fait 5 blessés.
Ces derniers jours, une accalmie relative a été remarquée dans différentes provinces du Burundi. Plus de 400 personnes ont été tuées dans les violences qui ont suivi la candidature contestée du président burundais pour un 3e mandat.
Inondation au Pakistan, 55 morts et des milliers de personnes bloquées après des pluies torrentielles dans le nord-ouest du pays.
Montage offshore, société écran, nous parlerons ce soir du scandale des Panama Papers qui implique aussi des proches de dirigeants africains.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Des milliers d'habitants du sud de Brazzaville ont fui leur quartier ce lundi après plusieurs heures d'échanges de tirs et de canonnades provoquées, selon le gouvernement congolais, par une attaque menée par un nombre indéterminé d'hommes armés contre les bâtiments publics. Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement de la République du Congo.
Aux alentours de 3 heures du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, des assaillants armés ont attaqué un quartier de la partie sud de Brazzaville qui s'appelle Mayanga et ont pris d'assaut un certain nombre d'édifices publics et symboles de l'État comme un point de commandement militaire, des commissariats et puis la mairie d'arrondissement de Makelele. Et puis à partir de ce moment-là, la force publique, c'est-à-dire l'armée, la police et la gendarmerie, ont répliqué et ont ramené l'ordre. Et au moment où nous parlons, nous pouvons considérer que la tranquillité est revenue sur Brazzaville totalement depuis la fin de matinée.
Est-ce qu'on sait qui sont les assaillants ?
Il s'agit manifestement, parce qu'ils ne s'en sont pas cachés, d'ex-miliciens Ninja Nsilulu.
Est-ce qu'ils se sont perdus dans la nature ? Est-ce qu'on les a abattus ou on les a arrêtés ?
Et les opérations ont continué une partie de la journée. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où nous parlons, il n'y a pas encore de la part des services compétents ni de bilan en termes humains, ni en termes matériels, ni en termes d'investigation et d'éventuelles interpellations. À ce stade, il est prématuré de s'avancer sur ce sujet.
Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement de la République du Congo.
Au Tchad, après les 4 leaders incarcérés et depuis bientôt 2 semaines, un 5e vient d'être interpellé ce lundi par la police judiciaire. Il s'agit du docteur Albi Sati Saleh Al-Azam, l'un des porte-parole de la coalition Ça suffit. Dans un point presse ce midi à la Bourse du Travail de N'Djamena, les coalitions Ça suffit et Trop c'est trop dénoncent cet acharnement contre la société civile et maintiennent la marche pacifique de demain. Écoutons Bertrand Solo Gandje, porte-parole de Ça suffit.
Eu égard à la situation sociopolitique actuelle du Tchad, la coalition Ça suffit informe l'opinion nationale et internationale que l'un de ses porte-parole en la personne du docteur Albi Sati Saleh Al-Azam a été convoqué ce matin à 8h à la police judiciaire. Cet état de fait confirme la volonté du gouvernement de mettre terme aux valeurs démocratiques au Tchad. La coalition Ça suffit est indignée par cette attitude tendant à museler la population dans ses aspirations légitimes. Nous demandons la libération sans condition de nos porte-parole, désormais passés de 4 à 5. Nous informons la population que la marche pacifique dite pour l'alternance démocratique des libertés d'expression et des droits de l'homme prévue demain 5 avril 2016 est maintenue. Nous réaffirmons le caractère pacifique de la marche.
2 personnes ont été tuées dimanche soir et 4 autres blessées dans le sud-ouest du Burundi. Une grenade a fait 5 blessés d'une même famille dans le centre du pays. On ne connaît toujours pas les mobiles de ces violences armées. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Des gens armés, pour le moment non identifiés, ont mené dimanche soir une attaque armée dans un bistrot appartenant au conseiller communal de la colline Gitaramuka, en commune de Burambi, dans la nouvelle province de Rumonge, au sud-ouest du Burundi, selon l'administrateur de la localité, Madame Adélaïde Nduimana. Deux personnes sont mortes au centre de santé de la place, parmi elles un catéchiste de la paroisse et une maman. Son enfant de 2 ans et 3 autres personnes, dont le chef de poste, ont été blessées, certaines grièvement. Il y a une semaine, dans la même commune, une autre personne avait été tuée par des hommes armés qualifié de terroriste par les autorités burundaises. Des dégâts matériels importants ont été signalés par l'administration. Par ailleurs, selon l'administrateur de la commune Mutao, en province de Gitega, au centre du Burundi, Denis Niyomuhanyi, une personne non identifiée a lancé une grenade dans une maison dont tous les membres de la famille prenaient le repas du soir. Ils ont été tous blessés et conduits à l'hôpital de Mutao où ils reçoivent des soins. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et au Burundi toujours, le rapatriement du corps de l'ancien ambassadeur et ministre rwandais Jacques Biouzagara vient d'être autorisé par Bujumbura. Arrêté par les services burundais des renseignements, détenu illégalement, sa mort subite à la prison centrale de Pimba n'a toujours pas été expliquée.
Deux détenus de la prison américaine de Guantanamo ont été transférés au Sénégal. D'après les autorités américaines, il s'agit de deux Libyens, Salem Abdou Salem Guerebi et Omar Khalif Mohamed Abou Bakr Manjou Oumar. Ils auraient, d'après le New York Times, des liens avec Al-Qaïda et un groupe libyen de combattants islamistes. De Guantanamo, on écoute Reed Brody de l'organisation Human Rights Watch.
Il y a deux Libyens qui sont à Guantanamo depuis 14 ans qui ont été transférés vers le Sénégal. Comme vous le savez, le président Obama essaie de vider Guantanamo peu à peu. Et en fait, la décision du Sénégal d'accueillir ces deux Libyens aidera beaucoup. C'est un geste humanitaire important. Ces deux Libyens qui ont passé 14 ans donc sans jugement, en violation du droit international, sont désormais au Sénégal.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Inondation au Pakistan, 55 morts et des milliers de personnes bloquées après des pluies torrentielles dans le nord-ouest du pays. L'armée est en train d'organiser une opération de sauvetage. Maëlie Segel.
Toutes les routes menant aux villages de la région sinistrée sont coupées. Les torrents de boue empêchent toute circulation. La voie de l'air est la seule possible. L'armée essaie donc d'envoyer un hélicoptère pour venir en aide aux survivants. Dans la partie du Cachemire, sous autorité pakistanaise, ces personnes se compteraient en milliers. Les hôpitaux locaux, eux, ne sont pas assez équipés pour soigner les blessés. L'autorité pakistanaise de gestion des catastrophes naturelles a dépêché 4 camions chargés de biens de première nécessité aux districts affectés. Ce n'est pas la première fois que le Pakistan est frappé par des épisodes météorologiques intenses. Ces dernières années, le pays a été largement touché. À chaque fois, des centaines de morts sont recensées et les inondations détruisent de vastes surfaces de terres arables, ce qui affecte l'économie de ce pays largement agricole. Lors de la saison des pluies l'an dernier, des averses torrentielles et des crues avaient fait 81 morts et touché plus de 300 000 personnes dans tout le pays.
3 bateaux turcs ont ramené en Turquie 202 migrants irrégulièrement débarqués en Grèce, tandis que 43 Syriens étaient envoyés de Turquie dans l'Union européenne, dans ce que l'agence France-Presse appelle une répétition générale de la mise en œuvre de l'accord controversé Union européenne-Turquie. Le plan, conclu le 18 mars, prévoit que tous ceux arrivés en Grèce depuis le 20 mars seront refoulés s'ils n'ont pas demandé l'asile en Grèce ou si leur demande y a été rejetée au nom de la protection dont ils sont censés jouir en Turquie. En contrepartie, pour chaque Syrien renvoyé en Turquie, l'UE accepte d'en réinstaller un autre depuis la Turquie, dans la limite de 72 000.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré être prêt à rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas pour parler de la paix. Il dit avoir même dégagé son agenda de la semaine. Monsieur Netanyahou a dit prendre Monsieur Abbas au mot après des déclarations du président palestinien jeudi à la télévision israélienne. Messieurs Abbas et Netanyahou n'auraient plus eu de rencontre publique substantielle depuis 2010 selon les médias.
2 Saoudiens condamnés à mort pour 2 affaires de meurtre ont été décapités au sabre aujourd'hui près de la capitale Riyad, portant 84 le nombre des exécutions en Arabie Saoudite depuis le début de l'année. Le 2 janvier, en une seule journée, 47 personnes avaient été exécutées pour terrorisme. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent régulièrement ces exécutions.
Les révélations des Panama Papers par le Consortium international des journalistes d'investigation concernent de nombreuses personnalités et responsables politiques de la planète. Pour l'Afrique, ce sont surtout des noms de proches de présidents qui sont cités dans ce scandale des évasions fiscales. Nathalie Barge.
Parmi les responsables politiques africains mentionnés figurent, entre autres, Jeannette Désirée Kabila Kiyungu, députée et sœur du président de la RDC, Joseph Kabila, Bruno Jean-Richard Itois, ministre de la Recherche scientifique du Congo-Brazzaville, le général Emmanuel Ndahiro, ancien directeur de l'agence rwandaise du renseignement et le fils du président congolais Denis Sassou Nguesso, Denis Christelle Sassou Nguesso, député et directeur général adjoint de la Société nationale des pétroles du Congo. Contacté par le journal Le Monde, ce dernier a dit ne pas connaître le cabinet panaméen Mossack Fonseca, mis en cause dans ses révélations sur l'évasion fiscale au plan planétaire.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Actualité économique, Timothée Donagmaï.
Opération de charme de la Tunisie en direction des touristes, ces derniers évitant ces plages depuis les attaques de mars et juin 2015 qui ont coûté la vie à 51 ressortissants occidentaux. Le directeur de l'Office national du tourisme tunisien, Abdelatif Hammam, était à Paris la semaine dernière. C'était pour inviter des journalistes et voyagistes français dans son pays en vue d'y constater l'amélioration de la situation. À noter que 7% du produit intérieur brut de la Tunisie est généré par le secteur du tourisme. Des économies en vue pour les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, la réalisation de leurs objectifs en matière d'utilisation des énergies renouvelables à l'horizon 2030 pourrait leur faire économiser jusqu'à 750 milliards de dollars, selon Adnan Amin, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable. Enfin, ici aux États-Unis, le constructeur automobile Tesla, spécialisé dans les véhicules électriques, a frappé un grand coup avec quelque 232 000 précommandes de son futur modèle d'entrée de gamme. Mais selon Stéphanie Brinley, experte du marché automobile au sein du cabinet IHS que cite l'AFP, Tesla doit passer à la vitesse supérieure, notamment en multipliant ses centres de production et en se dotant d'un réseau de distributeurs.
Merci Timothée Dorangmaï.
Place au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
En sport aussi, on ne parle que des Panama Papers et notamment la star Lionel Messi qui réagit.
Suite aux révélations d'un ensemble de médias internationaux qui ont dévoilé comment de nombreuses personnalités profitent du système de compte offshore dans le cadre de paradis fiscaux, la famille de Lionel Messi assure dans un communiqué que les accusations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent contre le joueur sont fausses et diffamatoires. La famille de Messi rappelle également que la situation de l'attaquant du FC Barcelone a été régularisée auprès du fisc espagnol. Pour la famille de l'Argentin, ces accusations portent un préjudice irréparable à Lionel Messi.
Football sur le terrain cette fois.
Le premier tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans 2017 a donné lieu à des résultats serrés ce week-end. La Tunisie s'est mise à l'abri en battant nettement le Niger 3-0 chez elle. De même que la Guinée qui s'impose au Libéria 2-0. Les autres résultats, victoire à domicile de l'Éthiopie 2-1 contre la Somalie. Le beau succès de la Gambie en Sierra Leone 2-0. L'Algérie qui domine la Mauritanie 2-1. Match nul, un but partout entre le Soudan et le Kenya. Même score entre le Rwanda et l'Ouganda. La courte victoire du Mozambique face à l'île Maurice, 1-0. Le match nul de partout entre le Swaziland et la Namibie, 2-2. Enfin, le Botswana qui s'impose au Zimbabwe, 1-0. La composition des deux groupes de la Ligue africaine des champions sera connue le 24 mai prochain, date à laquelle la Confédération africaine de football procédera au tirage au sort. L'autre tirage au sort, celui du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, aura lieu le 21 avril. On rappelle que ce tour oppose les qualifiés de l'épreuve au club reversé de la Ligue des champions.
Wilfried Bonny, l'attaquant de Manchester City, intéresserait Everton.
Pisté par West Ham, l'attaquant international ivoirien est sous contrat jusqu'en juin 2019 avec les Citizens. Mais selon le Daily Mirror, le joueur de 27 ans aurait été ciblé afin de compenser un éventuel départ du Belge Romelu Lukaku lors du mercato d'été. On se souvient qu'en janvier 2015, City avait déboursé un peu plus de 30 millions d'euros pour recruter le joueur ivoirien.
Enfin, la NBA, championnat de basket nord-américain.
Deux jours après sa défaite, en 14 mois à domicile, Golden State a écrasé Portland 136 à 111, 39 points pour Stephen Curry. Les Cavaliers de Cleveland ont dominé les Charlotte Hornets, l'une des équipes surprises de cette conférence Est, 112 à 103. Enfin, les Bulls de Chicago, encore privés de Derrick Rose, gardent un mince espoir après leur victoire à Milwaukee, 102 à 98.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale ce soir, Brazzaville.
Le gouvernement a annoncé avoir lancé des investigations, Morgane, sur les combats de la nuit. Selon la déclaration du gouvernement congolais, les fauteurs de troubles seraient des ex-miliciens ninjas, des combattants d'une ancienne faction de la guerre civile dite du Pool entre 1998 et 2003. Ces miliciens étaient alors dirigés par Frédéric Bensamou, alias Pasteur Ntoumi. Sur VOA Afrique, l'ancien chef rebelle appelle Denis Sassou Nguesso à quitter le pouvoir.
Comme nous sommes dans la phase de la contestation, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques attaques au niveau des PSP, c'était une réaction de la base, mais ce n'est pas comme les choses se sont présentées.
Aujourd'hui, le gouvernement parle d'assaillants. Est-ce que les ninjas ont une implication dans l'attaque de ce lundi matin?
Vous savez que les ninjas étaient dissous. La base a aussi ses réactions. Parfois, quand les politiques ne font pas les choses à temps, les populations peuvent aussi dévancer les politiques. C'est une insurrection. C'est la population qui ne se reconnaît pas dans le verdict et dans les suffrages qu'ils ont donnés aux candidats de l'opposition qui réagissent de cette manière.
Avez-vous une implication dans les violences de ce matin?
Non. Dans tous les états-majors politiques, les gens réfléchissent comment ils doivent faire pour sortir effectivement de la situation. Mais il y a aussi la pression de la base. La base s'est dit que est-ce qu'au niveau de l'opposition, il n'y a pas des gens qui sont corrompus? Et donc, les gens sont fatigués. C'est vrai qu'on a eu quelques discussions avec quelques jeunes. Ils sont convaincus qu'ils ne peuvent rien faire s'ils ont les bras vides. Donc c'est pourquoi, puisqu'ils ont des parents, et Ndenge, qui est le directeur national de la police, avait réarmé les ex-ninjas et qu'il a baptisé même les 12 pros. Donc comment voulez-vous les gens qui étaient des frères, qui se retrouvent du côté du pouvoir et qui sont armés maintenant, alors qu'ils avaient un même statut d'ex-combattants, et aujourd'hui, au lieu que ce soit aussi des policiers, non, c'est une milice que Ndenge est en train de fabriquer. Les gens contestent ça, les gens disent que ça ne peut pas se faire.
Concernant les armes de ce lundi, d'où viennent-elles?
Ce sont les armes des Sassou qui se retournent contre lui-même. Les armes sont distribuées à Brazzaville par le gouvernement. Ici, à l'intérieur du pays, où est-ce que je veux trouver les armes?
Certains opposants appellent à la désobéissance civile. Il y a ces violences aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites-vous?
Moi, je suis un politique. J'ai longtemps parlé, mais nous demandons d'abord l'implication de la communauté internationale. Sinon, il n'y aura pas de solution. Les jeunes qui passaient, ils ne tiraient pas sur la population, sauf qu'ils sont prêts aux policiers. Je ne peux pas condamner du moment où les gens qui sont peut-être en autodéfense, c'est une action qui était purement vers les assaillants, c'est-à-dire qui sont les policiers, qui sont les assaillants, ils sont armés, et les 12 pros, c'est-à-dire les ex-ninjas armés par Ndenge, bon, on ne peut pas quand même tolérer ça.
Est-ce que vous craignez un retour de la guerre au Congo-Brazzaville?
Ben effectivement, il faut craindre ça. Mais pourquoi la communauté internationale ne s'implique pas? On se pose la question.
Quel est votre message à Denis Sassou Nguesso?
Moi, ce que je dis au président Sassou, je lui avais dit qu'il n'allait pas changer la constitution, et je lui avais dit qu'il devait aussi effectivement écouter le point de vue de tout le monde par la mise en place d'un gouvernement national, et que lui, il est resté 32 ans au pouvoir. 32 ans au pouvoir, c'est trop. Pourquoi les autres ne peuvent pas aussi diriger ce pays? Moi, je pensais que c'était sa porte de sortie, mais comme il n'a pas écouté, ben, nous allons nous tous constater ce qui va se passer. Vous savez qu'il a triché les élections, donc il doit se retirer.
Frédéric Bensamou, alias Pasteur Ntoumi, joint par Nicolas Pinot.
Lutte contre Boko Haram dans la région du lac Tchad. Les habitants ont mis en place des comités de vigilance malgré l'état d'urgence décrété depuis plusieurs mois. Notre envoyé spécial Bagassi Koura s'est rendu dans la ville de Bagassola.
Nous sommes ici au marché hebdomadaire de Bagassola. Ce samedi, vendeurs, acheteurs et habitants de la région ont convergé en masse ici Pourtant, il y a seulement 5 mois, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans 3 explosions kamikazes simultanées.
Il était 15h30 quand le premier détonement s'est fait entendre.
Lui, c'est Dimouya Souapébé, le préfet du département de Kaya, chef-lieu Bagassola.
Bagassola n'a jamais eu à l'idée un jour qu'il allait être attaqué par Boko Haram.
Au centre du marché, des restes de hangars calcinés, signe de la puissance des bombes artisanales. À ce jour, c'est l'attaque la plus meurtrière de Boko Haram sur le sol tchadien. On écoute le préfet de Bagassola, Dimouya Souapébé.
Nous avions eu sur le coup 43 morts, nets, y compris les kamikazes. 43 morts, 58 blessés.
Situé à quelques 200 km des frontières du Niger et du Nigeria, épicentre du groupe Boko Haram, Bagassola a depuis pris des mesures drastiques pour se protéger. Des groupes d'autodéfense ont été constitués pour avoir accès au marché. Il faut désormais montrer patte blanche aux membres du comité de vigilance. Dans cette bourgade sous un soleil de plomb, ils procèdent à des fouilles corporelles à l'aide de détecteurs de métaux.
On fouille tout le monde. Si ton frère même, s'il est dehors, tu vas le fouiller.
Hassan Ahmad Mahamat est le président du comité de vigilance.
On commence à 6h30 à 18h. On a fait 6 mois ou 7 mois, on est ici. Matin, soir, on est là. Mais on a rien trouvé, mais on a soutenu, on a fait défendre notre pays, seulement notre village.
Selon le préfet Dimouya Souapébé, ce même dispositif existe dans tous les villages de sa circonscription.
Ce comité de village, vous partez aujourd'hui dans tous les villages, quelle que soit la taille de ce village. Vous partez dans toutes les villes du département de Kaya. Vous y trouverez des hommes armés, pas en fusil. Nos populations n'ont pas de fusil. Mais ils s'arment en armes blanches. Ils sont devenus très vigilants, comme indique leur nom. Et ce sont ceux-là, aux côtés de nos forces de défense, ont fait, à l'heure où je vous parle, que nous espérions quand même que la sécurité est en train de revenir.
La région du lac est hautement militarisée. Sous la menace de Boko Haram, l'armée continue son redéploiement dans cette région placée sous état d'urgence depuis novembre 2015. À Bagassola, dans l'ouest du Tchad, Bagassi Koura pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
L'arrestation de Khalid al-Barnawi, chef du groupe islamiste Ansarou, est un gros coup pour l'armée nigériane et démontre que la stratégie du président Muhammadu Buhari est en train de porter ses fruits. C'est l'avis du docteur Oudou Abdoulaye Ayouba, professeur de sciences politiques et relations internationales à l'université Amadou Bello dans le nord du Nigeria. Au micro de Jacques Aristide, professeur Ayouba estime qu'il reste toutefois à établir la véritable influence d'Al-Barnawi dans le réseau terroriste du Nigeria. Professeur Ayouba.
Les services secrets nigériens n'ont pas des informations concrètes sur cet homme-là. Donc, son lien avec Boko Haram, ce n'est que des à peu près.
Khalid al-Barnawi apparemment faisait le lien entre les groupes nigérians et ceux d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Était-il donc un maillon fort dans la nébuleuse islamiste nigériane?
Lorsque Boko Haram a commencé, il y a eu des spéculations que les dirigeants de Boko Haram ont été formés, que ce soit au Mali ou à la frontière avec l'Algérie. Il y a eu des déclarations de Chekau sur le rapport entre Boko Haram et le groupe du Maghreb islamique, c'est pas clair.
Cette arrestation représente-t-elle un gros coup pour les forces de sécurité et de défense nigériane contre le terrorisme?
Cette arrestation montre que le Boko Haram est un peu à déroute. Ça montre une différence entre ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant. C'est vrai, il y a eu des spéculations sur la déchéance de l'armée nigériane. C'était pas ça. C'était la décision politique qui empêchait les militaires de faire leur travail. Et depuis que la décision politique a changé, vous voyez, les militaires font vraiment leur travail. Et puis, ça montre l'état de l'armée nigériane. C'est une armée forte qui a manqué des moyens au début, mais qui a des moyens, et puis maintenant on voit les résultats.
Donc pour vous, ce coup de filet est également le fruit de la nouvelle stratégie dans la lutte contre les groupes terroristes mis en place par le Nigeria depuis l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari?
Tout à fait, tout à fait. Il y a une autre stratégie, et puis ça paye, puisque on a des résultats. Actuellement, au nord, il y a un calme. Vous voyez, les gens sont rassurés. Puis, les incursions de Boko Haram sont limitées. Le chef d'état-major qui est installé à Maiduguri, vous voyez, il mène les opérations depuis Maiduguri. L'action se passe à Maiduguri et puis dans l'état de Borno. Les militaires sont plus déterminés. Ils ont plus d'armes, plus de financement. On s'occupe d'eux. Il y a une coopération entre les agences de sécurité, que ce soit les services secrets, la police et l'armée. Même par rapport aux voisins du Nigeria, Niger, Tchad, Cameroun, il y a une coopération qui s'est mise en place. Puis ça a produit des résultats. Il y a des progrès, il y a des progrès.
Professeur Oudou Abdoulaye Ayouba était en ligne de Zaria dans l'état nigérian de Kaduna.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Mali, l'eau potable devient une denrée rare. Les populations du sud ou du nord sont toutes confrontées aux problèmes d'eau potable. Les plus exposées sont surtout les femmes qui doivent parcourir des centaines de kilomètres avec un seau d'eau. Dans certaines localités, comme Skay par exemple, une ville riveraine du fleuve Sénégal, ces femmes ont battu le pavé pour se faire entendre. N'est-ce pas Kassim Traoré ?
La période des chaleurs est source de manque d'eau potable au Mali. Avoir de l'eau potable devient alors un parcours de combattant. Dounantie Daou, coordinateur de la campagne nationale pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement.
Les infrastructures d'eau ne suffisent pas aujourd'hui pour avoir accès à l'eau potable. Souvent, il faut veiller à la quête de la goutte d'eau. Et ça, c'est ceux qui sont au niveau de la capitale ici. Ceux qui sont au niveau des zones d'insécurité, nous parlerons d'autre chose.
Au nord du Mali, les femmes parcourent de longues distances pour avoir de l'eau. De nos jours, les forages et les puits à grand diamètre se font rares dans la localité de Bourem, région de Gao. Aïssata Sissé, ménagère.
À Bourem, ça ne va pas du tout. Il n'y a pas d'eau. Les femmes marchent des kilomètres pour chercher d'eau. On nous donne aquatab pour utiliser, pour filtrer l'eau. Mais ça ne va pas du tout. Parce que les femmes sont très fatiguées là-bas. Surtout à ces moments. Maintenant, l'eau est cesse. Les femmes partent au fleuve des kilomètres pour chercher de l'eau. Il n'y a pas d'eau potable à Bourem, alors que l'eau, c'est la maîtresse de la vie.
Comme dans la région de Gao, c'est le même constat dans celle de Tombouctou, surtout à Razelma, où certains réfugiés qui sont revenus au Berkay sont obligés de retourner dans les camps des réfugiés à cause du manque d'eau. Charney Ag Infan, réfugié.
Se procurer de l'eau potable au nord du Mali est devenu un luxe, précisément chez nous à Razelma. Il y a un sérieux manque d'eau potable, qui dit en général par manque de fourrage. La population utilise l'eau des puits qui a des vingtaines de kilomètres. Elles sont obligées de marcher chaque jour ces trajets pour leurs besoins en eau. Nos serres vivent dans des conditions précaires.
À Kay, première région administrative du Mali, c'est le même scénario. Les femmes de l'Afiabougou Sud dénoncent une marginalisation quant à la distribution de l'eau potable par rapport aux autres quartiers de Kay. Pour se faire entendre, elles ont marché sur le gouverneur de la région, Berthe Oumumba, porte-parole des femmes.
Avant le profond regret de venir une fois de plus porter à la connaissance des autorités nos angoisses, nos calvaires, nos souffrances au point que nous ne savons plus à quel sein se vouer. Car en 2015, à la même période, nous étions à la même place pour dénoncer les mêmes mots aux autorités de l'époque, à savoir la pénurie d'eau potable malgré que la ville soit riveraine du fleuve Sénégal. Le manque d'extension du réseau électrique, bien que les centrales électriques de Felou et de Manantali soient situées dans la région.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagno a assuré la mise en onde avec l'assistance technique de Joe Gill à la console, à la présentation Morgane Guériac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage pour nos magazines. Partagez aussi vos photos et vidéos. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com. Pour plus d'infos, 24 sur 24.
Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.